France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La fin du tirage au sort pour l'entrée dans les filières universitaires les plus demandées. L'introduction d'une forme de sélection annonce ce matin du Premier ministre et de la ministre de l'Enseignement supérieur qui annonce aussi le rattachement des étudiants au régime général de la sécurité sociale dès la rentrée prochaine. Précision sur ces mesures avec Hakim Kasmi, commentaire politique de Ludovic Piétenu. La Catalogne toujours entre deux eaux, plus que jamais même puisque les fonctionnaires ont repris le travail ce matin sous l'administration directe de Madrid. On fera le point avec Sébastien Berriot. Aux États-Unis, c'est une première inculpation attendue dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle. Donald Trump dénonce une chasse aux sorcières, réfute la moindre collusion avec la Russie, analyse de Nadine Epstein. La mort de l'inventeur du logo, la rose au poing, emblème du Parti socialiste à l'échelle internationale, Didier Motchan s'est éteint hier à Paris. Il avait 86 ans, évocation avec Frédéric Mettezo. Et puis une pétition demande l'interdiction de l'inauguration aujourd'hui d'une rétrospective Polanski à la Cinémathèque de Paris en présence du cinéaste accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle. Pétition qui a déjà recueilli près de 26 000 signatures, suivies avec Cécile de Carvaz-Doué, l'invitée de la séquence interview, Lise Dumazy, qui est présidente de l'université Grenoble-Alpes et qui est en direct avec nous de France Bleu Isère. Dans la dernière partie donc de la grande table, Olivia Jesbert.
L'informatique est-elle devenue une puissance dominante? Notre champ de vision et de compréhension est-il en train de se restreindre? Il plaide pour la reconnaissance de l'informatique comme une science qu'il faut à tout prix enseigner, aussi pour couper court aux nombreux fantasmes à ce sujet. Gérard Berry, professeur au Collège de France et informaticien, est notre invité.
Emmanuel Macron avance, disait avant-hier Jean-Luc Mélenchon. Il a marqué le point en mettant en œuvre ses réformes libérales en 5 mois de mandat, expliquait aussi le leader de la France insoumise. Et le chef de l'État est-il en passe, c'est la question qui se pose ce matin, de gagner une deuxième manche. C'est l'enjeu de ces réformes annoncées aujourd'hui qui concernent l'accès à l'université et la situation aussi sociale des étudiants. Le Premier ministre et la ministre de l'Enseignement supérieur présentaient ce matin un plan dit étudiant, donc qui comporte deux volets distincts. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour, Madame Mercier.
Vous revenez de cette conférence de presse, on va vous entendre bien sûr. Il y a le premier point qui concerne donc les conditions d'accès à l'université, c'était le point évidemment le plus attendu. Faut-il sortir du tirage au sort? Faut-il ou pas introduire une sélection? Réponse ce matin du Premier ministre.
Je n'ai pas et je n'ai jamais eu peur du mot sélection. Mais ce n'est pas ce que nous proposons aux étudiants et aux lycéens français. Nous allons donc, comme je m'y étais engagé dès la déclaration de politique générale, supprimer le tirage au sort, mettre en place une nouvelle plateforme, plus simple, plus rapide, plus accueillante, et un processus d'accès à l'enseignement supérieur véritablement organisé pour accompagner les lycéens dans leur choix.
Processus d'accès à l'enseignement supérieur, bon, évidemment, ce sont des termes qu'il faut expliciter. Hakim Kasmi, le gouvernement trouve une solution intermédiaire, disons, de quoi s'agit-il précisément?
Alors, en fait, le gouvernement, eh bien, son but, eh bien, c'est d'informer les futurs étudiants dès le lycée, avec, par exemple, 2 semaines dédiées à l'orientation, au premier et au second trimestre, mais aussi avec la mise en place d'une plateforme numérique, monorientation.fr. Les informations données porteront, par exemple, sur les débouchés, mais aussi les matières enseignées dans ces licences, car une bonne partie des élèves de terminale ignorent souvent le contenu de ces licences. C'est par exemple le cas en STAPS, où le sport ne représente que 20% des modules, ce qu'ignorent beaucoup les jeunes. Pour faciliter l'accompagnement de ces élèves, eh bien, les classes de terminale auront désormais aussi 2 professeurs principales qui les accompagneront tout au long de l'année. De plus, les universités tiendront aussi désormais compte, eh bien, de l'avis du conseil de classe, notamment pour les filières dites sous tension. C'est par exemple STAPS, droit ou psycho. Le type de baccalauréat obtenu comptera aussi. C'est par exemple le cas pour les bacheliers professionnels. Un bachelier professionnel ne pourra pas forcément partir directement en licence de philo s'il n'a pas fait un bac général. Enfin, pour lutter contre le manque de places dans les licences sous tension, 130 000 nouvelles places seront créées, notamment avec de nouveaux BTS, mais aussi de nouveaux IUT.
Voilà, donc pour ce processus, Hakim Kasmi, il faut quand même répondre à la question. Est-ce que vous diriez que c'est l'introduction ou pas de la sélection?
Alors, tout est une question de sémantique, Antoine. Si le gouvernement parle, lui, plutôt, eh bien, attendu plutôt que de sélection. Les faits sont bien là, car désormais, il y aura bien et bel et bien un filtrage à l'issue du bac, notamment pour les filières professionnelles. On voit bien, le gouvernement a peur de ce mot sélection, mais les faits sont là. Et c'est aussi pour ça que le gouvernement veut créer plus de places en BTS et en IUT, car il faut savoir que, par exemple, pour les bacheliers professionnels, qui sont dans un premier temps destinés au BTS, il y a 98% d'échecs en première année de licence.
Alors, on va dire aussi un mot peut-être des questions sociales, puisque la ministre a par ailleurs annoncé que les étudiants allaient être attachés au régime général de la sécurité sociale dès la rentrée 2018. Jusqu'à présent, donc, ils dépendaient, Hakim, d'un régime spécifique. En quoi cela va-t-il améliorer leur situation ?
Alors, ils auront un meilleur accès aux soins, il y aura plus de médecins dans les universités, un meilleur accompagnement. Les élèves, de leur côté, pourront aussi faire des initiatives pour sensibiliser, par exemple, eh bien, à la santé, mais aux maladies sexuellement transmissibles. C'est ce qu'on a, par exemple, en Belgique. Cela existe beaucoup, car le but du gouvernement, selon les mots d'Edouard Philippe, qui était là ce matin, eh bien, c'est de donner plus de pouvoir d'achat aux étudiants avec ces mesures, eh bien, qui vont mettre la sécurité sociale sous le régime général. Cela va permettre d'économiser, eh bien, de l'argent aux étudiants, car jusque-là, ils payaient 217 euros pour leur sécurité sociale. Désormais, la somme sera divisée par deux, sauf, eh bien, que cette somme divisée par deux ira à des activités culturelles et sportives. Enfin, il y aura aussi un plan sur le logement, puisqu'il y aura 60 000 logements de plus d'ici la fin du quinquennat et 20 000 logements de plus également pour les étudiants qui auront un premier emploi.
Voilà donc ces mesures qui accompagnent le plan dont vous nous avez parlé, qui était le plan sans doute principal. On va saluer l'invité de ce journal qui est en direct avec nous de France Bleu Isère, Lise Dumazy. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous présidez donc l'université Grenoble-Alpes. Je vous pose aussi la question, est-ce que vous diriez, vous, qu'on introduit à une sélection à l'entrée de l'université ?
Je pense que la sélection, elle a toujours existé et en fait, ça a été la pire des sélections, c'est-à-dire la sélection par l'échec. On l'a rappelé, hein, à peu près entre 1 et 2% des bacheliers professionnels qui s'inscrivent dans des licences générales réussissent, malheureusement. Et donc, je pense que la question n'est pas la question de la sélection si par sélection, on n'en prend qu'une petite partie, puis tout le reste, on s'en occupe pas. Évidemment, ce serait totalement inadmissible. Mais si par sélection, on entend une meilleure adéquation des profils antérieurs et des parcours antérieurs des élèves à ce qu'ils veulent faire et à ce qu'ils peuvent faire comme étudiants, avec d'ailleurs toute la souplesse, la possibilité de revenir plus tard dans formation tout au long de la vie, c'est une bonne chose.
Donc l'instrument mis en place ce matin vous paraît convenir, selon vous, à la situation telle que vous la vivez ?
Je pense que c'est un progrès par rapport aux situations antérieures. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt et de dire que toutes les formes de licence peuvent permettre de réussir à tous les étudiants, quel que soit leur parcours précédent, parce que c'est faux. Et si on veut vraiment aider justement les étudiants qui ont différents parcours à réussir, il faut diversifier les licences, il faut augmenter effectivement les places en BTS et en IUT, comme c'est ce qui est proposé. Donc, je pense que c'est une bonne chose si les moyens suivent et aussi les ressources humaines. Parce que, évidemment, si on diversifie et si on ouvre des places nouvelles, il faudra aussi des ressources humaines plus importantes.
La présidente de l'université Grenoble-Alpes qui lance un appel à ce qu'il y ait des moyens qui aillent avec cette réforme. On vous retrouve dans la séquence interview, Lise Dumazy. Merci beaucoup d'avoir répondu et réagi à cette première information. Peut-être un mot aussi de l'invité de la deuxième partie de la grande table, Gérard Berry. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous aussi, vous êtes enseignant, en tout cas professeur au Collège de France, mais vous connaissez bien le milieu universitaire. Qu'est-ce que vous dites de cette situation ? Il fallait-il introduire ce système ou un autre ?
Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. On se polarise à tout moment sur une seule chose, ici la sélection à l'entrée, mais ce qui compte, c'est la trajectoire. Et donc, le fait qu'il y ait énormément d'échecs en première année, par exemple, montre... Envoyer les gens à l'échec, c'est pas une bonne idée. Et surtout que ça fait perdre du temps dans une carrière. Donc, il faut jouer sur tous les aspects.
Mais est-ce qu'on sait qui va échouer au départ ? C'est ça la question.
Il y a des fois où c'est prévisible, oui. Je pense que c'est assez clair. J'ai jamais été enseignant en licence.
Et l'informatique peut servir à ça, à sélectionner ou pas ?
À la limite, le tirage au sort n'était pas complètement idiot parce que c'est au moins une méthode juste si on veut, mais elle fonctionnait pas, quoi. Donc, méfiez-vous de l'informatique là-dessus.
Je précise quand même que Gérard Berry a écrit un livre qui s'appelle L'hyperpuissance de l'informatique. C'est pour ça que je lui posais la question. On le retrouvera dans la dernière partie de la grande table. Hakim Kasmi, vous voulez parler ?
Vous disiez le tirage au sort d'une bonne solution, mais quand vous avez un étudiant qui a 18 sur 20 et qui ne se retrouve pas dans la licence qu'il a choisie parce qu'il n'a pas de place et parce qu'il n'a pas été tiré au sort, la question peut se poser.
Mm-hmm. Question posée, merci.
Non, non, c'est une solution équitable, c'est pas une bonne solution.
Mais elle n'est pas équitable, un étudiant qui a un lycéen qui a 18 sur 20.
Ça dépend des
qui a 18 sur 20 en bac scientifique et qui n'a pas de place en STAPS ou en études de biologie, par exemple, c'est pas équitable.
Voilà. Oui, quand elle est faite comme ça, oui.
Merci. On ne va pas prolonger ce débat. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de participer aussi au journal Gérard Béry. On vous retrouve tout à l'heure. Je le disais en introduction, puisqu'on a parlé de la réforme du travail, on parle aussi de cette réforme à l'université qui s'attaque en fait à un deuxième front sensible. Emmanuel Macron avait marqué un point, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon, sur le premier dossier. Tout semble, Ludovic Pétenu, avoir été fait cette fois-ci aussi pour essayer de franchir cette étape avec succès.
Il est évident que quand Jean-Luc Mélenchon compte sur la jeunesse pour marquer le second point, mais que l'exécutif dégaine ce plan étudiant à base, on vient de l'évoquer, de prérequis, des attendus pour l'entrée des bacheliers à l'université, et donc sans utiliser ce mot potentiellement explosif de sélection, pas de quoi du coup mettre en effervescence les campus, les facs devraient rester calmes, et les étudiants à leurs études. De là à dire qu'Emmanuel Macron a déjà gagné la deuxième manche, il est évidemment trop tôt, mais celui qui se surnomme le maître des horloges a de toute façon, clairement, l'avantage certain de maîtriser l'agenda et le calendrier des réformes. Dans une interview au Monde cet après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe admet à demi-mot qu'il a compris qu'il fallait soigner la jeunesse, qu'il fallait être plus fin et plus stratège que l'opposition, d'où ces mots, vous les avez cités, Antoine, solution beaucoup plus souple, plus humaine et plus intelligente. Et puis la méthode de la concertation n'est peut-être pas si mal, avec comme prérequis la nécessité d'un arbitrage clair et définitif à l'arrivée. Ça c'est pour éviter certains errements du précédent quinquennat, et pour avoir été aux premières loges, c'est un élément qu'Emmanuel Macron a bien en tête. Mais sur ce plan étudiant, rappelons quand même que la discussion avec les acteurs du monde de l'éducation a débuté dès le 17 juillet. C'est un avantage aussi pour l'exécutif dans cette deuxième manche, puisque la première a été remportée par ce biais, la concertation avec les syndicats, souvenez-vous, qui les a divisés et conduit à des appels non unitaires et donc à une faible mobilisation contre les ordonnances loi travail.
Merci Ludovic Piétenu. Question maintenant, qui gouverne ce matin la Catalogne? Il n'est pas évident d'y répondre. Officiellement, depuis hier, la région vit sous la tutelle de Madrid. Les fonctionnaires ont donc repris leur travail sous une administration directe du gouvernement conservateur espagnol de Mariano Rajoy, dans l'attente de savoir si les dirigeants séparatistes qui ont été destitués après la déclaration d'indépendance de vendredi vont tenter de résister, par exemple, en gagnant leur bureau. C'est le cas ce matin d'un membre du gouvernement destitué qui assure qu'il continue à exercer ses responsabilités. Il a posté une photo de lui dans son bureau. Sébastien Berriot, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors la lutte continue à bas bruit, on le voit, entre Barcelone et Madrid. Comment est-ce que ça se traduit ce matin sur le terrain?
Alors vendredi soir, Mariano Rajoy avait promis une transition en douceur, pas de décision brusque susceptible de braquer les indépendantistes. C'est donc dans cet esprit que la mise sous tutelle de la Catalogne est en train de se mettre en place. Ce matin, effectivement, les fonctionnaires catalans à Barcelone et dans toute la région sont allés travailler presque comme un jour normal, une sorte de continuité, même si l'Espagne tient quand même à bien marquer son pouvoir dans un domaine précis qui est celui de la sécurité, pour entériner de façon officielle la prise de contrôle de la police régionale. Le ministre espagnol de l'Intérieur doit recevoir tout à l'heure à Madrid le nouveau chef des Mossos d'Esquadre. L'ordre a été donné de retirer les portraits de Carles Puigdemont dans tous les commissariats de police de Catalogne. Quant au président destitué et son gouvernement, tout le monde attendait de savoir ce matin s'ils allaient se présenter à leur bureau. Normalement, ils n'ont plus le droit d'exercer leurs fonctions. Carles Puigdemont n'a pour le moment pas été vu au palais de la Generalitat. Le président destitué et ses ministres se sont en tout cas déjà vus retirer ce matin leurs gardes du corps et leurs escortes de sécurité. L'exécutif catalan qui est aussi visé, on le sait, par la justice. Le parquet espagnol devrait déposer dès aujourd'hui des plaintes pour rébellion contre Carles Puigdemont et ses ministres. Mais le bureau du procureur général de l'État espagnol a laissé entendre qu'il n'y aurait pas, pour le moment en tout cas, d'arrestation.
Encore un tout petit mot peut-être, parce que le Premier ministre annonçait les élections générales en Catalogne pour le 21 décembre. Est-ce que ce recours au vote, à l'opinion publique, donc aux citoyens de Catalogne, est de nature à trancher le débat en cours?
Alors, ce qui est important de dire déjà ce matin, c'est que certains indépendantistes semblent dès aujourd'hui vouloir entériner la dissolution du Parlement actuel décidée par Mariano Rajoy. La présidente de l'Assemblée, Carme Forcadell, qui est connue pour ses positions assez dures vis-à-vis de Madrid, a annulé une réunion du bureau qui était prévue pour demain. Annulation parce que le Parlement a été dissous, parce qu'il n'existe plus donc. Alors, ça ne veut pas dire que tous les indépendantistes sont prêts à accepter cette dissolution et à participer aux élections anticipées proposées par Madrid, mais le débat est bel et bien lancé. Le vice-président destitué du gouvernement catalan, Oriol Junqueras, et son parti, l'ERC, indiquaient dès hier qu'il allait falloir prendre des décisions qui ne seront pas faciles à faire comprendre, sous-entendu faire accepter la proposition de Mariano Rajoy sur les élections anticipées. Les partis politiques ont bien compris qu'ils avaient tout à perdre en boycottant ce scrutin, mais le plus dur sera de convaincre la base, tous ces indépendantistes qui se considèrent aujourd'hui dans un pays indépendant et qui disent ne pas vouloir participer à un scrutin organisé par un pays étranger. Madrid a vraiment réussi à mettre les indépendantistes dans une position très inconfortable, d'autant que l'opinion catalane est très versatile. Selon un sondage publié par El Mundo ce matin, seulement 33% des Catalans se disent aujourd'hui favorables à l'indépendance.
Sébastien Berriot, merci beaucoup. À l'instant, on apprend que le parquet requiert des poursuites pour rébellion contre l'exécutif catalan destitué.
Allez, le journal d'Antoine Mercier. À mi-parcours, midi 47 sur France Culture. Aux États-Unis, l'affaire d'une possible ingérence russe dans l'élection américaine franchit aujourd'hui une étape avec la confirmation officielle de la première inculpation par le procureur spécial.
Et oui, dans une série de tweets la nuit dernière, Donald Trump avait une nouvelle fois dénoncé cette chasse aux sorcières. Il réfutait la moindre collusion entre sa campagne donc présidentielle et la Russie. Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour.
Selon CNN, une première inculpation a donc été approuvée par un grand jury fédéral. Ça s'est passé vendredi. Et l'interpellation d'au moins un suspect pourrait avoir lieu dès aujourd'hui.
Et oui, donc aujourd'hui, c'est le dénouement de la tentaculaire enquête menée depuis des mois par le procureur spécial américain Robert Mueller. Il a été nommé en mai après le limogeage du directeur du FBI James Comey pour, ouvrez les guillemets, chose russe avait fini par admettre Donald Trump. Et donc, aujourd'hui, les conclusions de l'ancien grand patron de la police fédérale ressembleront-elles à celles des agences de renseignement américaines qui, en janvier, supputaient l'intrusion de Moscou dans la campagne électorale pour avantager le candidat républicain Donald Trump. Selon la FBI et consoeurs, certains piratages, envois de mails démocrates dérangeants et autres actions de propagande ont été lancées sur les réseaux sociaux par la Russie. Autre question, y a-t-il des liens entre certains conseillers du président américain et le gouvernement de Poutine? En février dernier, un membre de l'entourage de Donald Trump, Michael Flynn, a dû renoncer au poste de conseiller à la sécurité nationale après avoir trompé le vice-président Mike Pence sur l'ampleur de ses entretiens avec l'ambassadeur de Russie à Washington en 2016. Les éléments à charge sont-ils suffisants pour ouvrir une action en justice? Réponse tout à l'heure avec la publication des premières mises en accusation et peut-être, vous l'avez dit, selon certains médias américains, un premier placement en détention. Le grand jury fédéral qui travaille avec Robert Mueller et constitue un rempart contre les tentatives de limogeage du procureur spécial par Donald Trump. Ce grand jury, composé d'une vingtaine de citoyens, aurait approuvé vendredi à Washington des mises en accusation placées sous scellés par un juge fédéral.
Nadine Epstein.
C'était l'inventeur du logo, la rose au point, emblème du Parti Socialiste à l'échelle internationale au siècle dernier. Didier Mauchan est mort hier à Paris à l'âge de 86 ans.
Et oui, c'était un proche de Jean-Pierre Chevènement qui avait fondé le CERES avec lui, qui fut longtemps l'aile gauche du PS. Communiqué d'hommage ce matin du parti qui affirme que la rigueur doctrinale du CERES a formé des milliers de cadres à une époque où l'idéologie comptait davantage que la petite phrase, où la recherche du sens primait sur celle du buzz. Frédéric Mettezo, effectivement, avec Mauchan, c'est un morceau de l'ancien monde qui disparaît.
Oui, Didier Mauchan était un pur produit du système Sciences Po ENA, l'école nationale d'administration, qu'il va en quelque sorte renier dans un essai resté célèbre et co-signé avec Jean-Pierre Chevènement en 1968, l'énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise. Didier Mauchan défendait l'union de la gauche et en fut l'un des théoriciens, pas seulement pour des raisons stratégiques et électoralistes comme François Mitterrand, non, il était un fondamentaliste en la matière, nous explique l'historien du socialisme Alain Bergougnoux. D'ailleurs, le CRS de Chevènement aide François Mitterrand à prendre le parti lors du congrès d'Épinay. Et Didier Mochan est le créateur du logo de ce nouveau parti, le point et la rose, le point levé des congrès socialistes quand on y chantait encore l'international. La rose pour changer la vie, du pain et des roses pour reprendre le slogan ouvrier du début du XXe siècle. Contre la guerre d'Algérie, pour une économie largement nationalisée et planifiée, contre la rigueur de 1983, contre l'Europe fédérale chargée selon lui de cuisiner un vol au vent à la sauce financière, contre la première guerre du Golfe, Didier Mochan était un idéologue façon ancien monde, à l'opposé du pragmatisme et du en même tempisme revendiqué aujourd'hui par Emmanuel Macron et les marcheurs. CERES, cela voulait dire centre d'études, de recherche et d'éducation socialiste. Dans ses théories politiques, Didier Mochan en appelait parfois à Einstein. Il croyait à la formation politique des militants et des masses. Lui qui écrivait dès 1975, sans un puissant mouvement de mobilisation populaire, la gauche, loin de prendre le pouvoir, sera prise par lui.
Et voilà, Frédéric Mettezeau, tout est dit. Merci beaucoup. On va passer maintenant à notre séquence interview et retrouver notre invitée Lise Dumazy, donc à Grenoble, présidente de l'université Grenoble-Alpes. Hakim Kasmi, une question.
Une question tout d'abord. Donc, ce matin, le Premier ministre a annoncé 1 milliard d'euros d'aide pour les universités sur 5 ans. Ce chiffre est-il le bon selon vous, ou est-ce que eh bien, les problèmes d'université ne sont pas qu'une question d'argent?
Ah ben, c'est pas qu'une question d'argent, c'est sûr, mais l'argent est important. L'argent, les moyens et les ressources humaines sont évidemment très importants. Bon, 1 milliard, c'est bien. Tout sur 5 ans, c'est moins que ce que demande la CPU. Demandait la CPU, à mon avis, c'est pas absolument suffisant. Et puis, tout dépend comment ils seront employés, naturellement.
Alors, justement, il y a donc cette question de la sélection, on en a parlé, mais il y a aussi la hausse démographique. Il y aura 200 000 étudiants de plus d'ici 5 ans. Le ministère de l'Enseignement supérieur n'envisage pas d'ouvrir de nouvelles universités. Comment allez-vous faire? Est-ce que ces moyens, justement, pourront vous servir, par exemple, à avoir plus d'enseignants pour accueillir ces élèves?
Ben, oui, s'ils sont ciblés, ce que je crois comprendre, en partie au moins sur développer effectivement le nombre d'enseignants dans les filières en tension, ce sera effectivement quelque chose qui nous aidera. Après, on peut pas pousser les murs non plus, donc il y a aussi une question d'immobilier universitaire. Tout dépend ce qu'on pourra faire là aussi. Et puis, tout dépend comment les étudiants vont se répartir. Parce que si en même temps, on voit des nouvelles filières en tension se créer, ça peut se produire. Quelquefois, ça se développe. Bon, il faudra que ça puisse suivre assez rapidement l'évolution des voies que prendront les étudiants.
Alors concrètement, on parlait ce matin d'un contrat pédagogique pour aider, par exemple, les bacheliers professionnels à avoir le niveau, par exemple, pour savoir faire une dissertation, à faire une problématique. Concrètement, vous, aurez-vous les moyens, avez-vous la place de mettre en place ces nouveaux modules, d'autant qu'ils dureront au moins 1 an?
Ben écoutez, ça, c'est une question vraiment complexe. Je pense que c'est pas seulement mettre en place de nouveaux modules, ou peut-être même pas principalement, s'agissant surtout des bacheliers professionnels, de mettre en place des modules d'un an qui sont censés leur permettre d'accéder ensuite à n'importe quelle licence. Je suis pas du tout persuadée que ça soit forcément la solution. Ça peut être une solution, une des solutions. Une autre solution, c'est aussi de diversifier les parcours de licence et de créer des parcours, par exemple, plus professionnalisés, à côté de l'augmentation des places en BTS et en IUT, de manière à mieux correspondre à ce qui a été leur formation avant. Parce que moi, je doute qu'un bachelier professionnel qui arrive et c'est pas lui faire, c'est pas être méprisant par rapport à lui, c'est pas du tout le cas, mais je doute qu'un bachelier professionnel qui arrive avec tout juste ayant son bac pro, en un an, soit capable véritablement de récupérer tous les prérequis nécessaires pour entrer en licence de philo ou d'histoire.
Une toute dernière question.
Alors, il n'y a pas que les bacheliers professionnels. Aujourd'hui, on a 60% d'échecs en première année de licence. Ça comprend aussi des bacheliers généraux. Comment l'expliquez-vous ?
Écoutez, il faut regarder un peu dans les détails, hein, parce que si vous regardez les étudiants qui restent au deuxième semestre déjà, ceux qui se présentent aux examens, eh bien, vous avez un taux d'échec qui est beaucoup moins important. En fait, il n'y a peut-être pas que les bacheliers professionnels et les bacheliers technologiques qui sont mal orientés, mais c'est quand même une grande partie du problème, d'autant plus que souvent, ils ne viennent plus au cours parce que finalement, ils s'étaient orientés par défaut et ça ne les intéresse pas, ou ils n'accrochent pas. Mais bien sûr, il y a aussi des questions, probablement, d'amélioration des méthodes pédagogiques. Je pense qu'actuellement, les universités connaissent de grands changements depuis plusieurs années et ça va continuer. Et il y a une réflexion pédagogique qui n'existait pas encore il y a 10 ans qui se met en place et qui tend à proposer des solutions qui conviennent mieux à la majorité des étudiants. Par exemple, moins de cours magistraux, plus de singularisation, on va dire, du travail. Hein. C'est ce qu'on a mis en place en STAPS, par exemple. Tous les cours magistraux ont été remplacés par des podcasts. Du coup, l'étudiant peut arrêter, revenir en arrière s'il n'a pas compris. Et derrière, on a des regroupements. En fait, il y a plus de cours en présentiel qu'avant. Il ne faut pas imaginer qu'on a remplacé le présentiel par des cours en ligne.
Mais singularité et présentiel ne font pas toujours bon ménage, madame la directrice. Madame la présidente.
Si, justement. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que les étudiants posent des questions en ligne et du coup, les cours sont centrés sur les difficultés qu'ont vraiment rencontrées les étudiants, d'une part, les TD, si vous voulez, qui sont en présence. Et puis, on repère aussi assez vite les étudiants en difficulté et on met en place des tutorats renforcés pour ces étudiants-là.
Merci beaucoup. Merci, Louise Dumazy, présidente donc de l'Université Grenoble-Alpes, d'avoir été en ligne avec nous en direct depuis France Bleu Isère. Un tout petit mot du temps. Soleil dominant cet après-midi, température 10 à 23 degrés. Édition réalisée avec Emmanuel Faucillon. Prochain journal 18h avec Antoine Marette.